Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus ou sur campuslille.fr ou encore sur DAB+. Vous êtes sur le point d'écouter le deuxième angle d'attaque du mois. Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avec pour vous servir Stéphane, le pro de la régie, et pour l'interview, Didier le nouvelliste, Ludovic au look gramscien, René la science et Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? D'évasion fiscale et des moyens, s'il y en a, d'y remédier. On va s'intéresser à celles et ceux, particuliers entreprises, qui essaient d'échapper au fisc et, disons-le tout de suite, ils y arrivent assez bien. Il y a des exceptions rares. Le baron Cellière semble s'être fait prendre pour maquillage fiscal par le parquet financier, environ 79 millions, hein, pas mal, sur un total de 350. Il y a aussi ce qui nous intéresse surtout, c'est pourquoi arrive-t-il si bien à échapper au fisc et aux lois ? C'est une première série de questions que nous allons poser à notre invité du jour. Et puis, il y aura une seconde série de questions. Qu'est-ce qui est possible de faire pour qu'il y ait une prise de conscience de cette véritable gangrène pour nos sociétés qu'est l'évasion fiscale ? En clair, comment politiquement, avec quelles règles ou moyens, il est possible d'enrayer la fuite de ces milliards ? La fuite de ces milliards, c'est presque le titre de l'ouvrage qui a servi de guide à l'émission. L'un de ses auteurs nous fait le plaisir d'accepter notre invitation. Bonsoir, monsieur le sénateur Éric Bocquet.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Merci d'être présent à Radio Campus. Nous sommes très heureux d'accueillir un de nos adhérents en plus. Je précise le titre du livre en question. Il s'agit de Milliards en fuite, coécrit avec votre frère Alain, et ex-député, et avec la collaboration du journaliste Pierre Gometon. La même équipe et le même éditeur, le Cherche Midi, que pour le gros succès de librairie qu'a été son domicile fisc. Avant d'aborder le vif du sujet, et comme nous n'avons pas tous les cinquièmes samedis du mois un sénateur au micro, Ludovic va vous poser une question sur un aspect de la fonction sénatoriale.
Oui, bonjour monsieur le sénateur.
Bonjour.
Alors, effectivement, la question qu'on aimerait vous poser, c'est qu'est-ce que font les sénateurs, et surtout qu'est-ce qu'ils font qui font que une commission d'enquête peut être nommée. Sur quelle base, en fait, la commission d'enquête, elle est saisie, parce que de toute évidence, elle est saisie. Et quelles sont un peu les conditions de travail, quels sont vos moyens, quel est éventuellement le retentissement que ça a dans l'hémicycle du Sénat. Est-ce que les rapports font l'objet de discussions, d'une présentation officielle, etc. Enfin voilà, on aimerait avoir quelques questions, effectivement, avoir quelques éléments d'information sur les conditions de réalisation de ce rapport et donc de ces commissions d'enquête.
Oui, alors c'est une bonne idée de commencer par là, c'est la bonne porte d'entrée parce que les deux ouvrages qu'on a publiés, Alain et mon frère, avec Pierre Gometon, donc Sans domicile fisc en 2016, celui-ci, Milliards en fuite, qui est sorti l'an dernier, s'appuie pour l'essentiel sur les travaux des commissions d'enquête parlementaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une commission d'enquête ? C'est valable également à l'Assemblée nationale, mais au Sénat ça marche de cette façon. Chaque année, tous les groupes politiques disposent de ce qu'on appelle un droit de tirage, c'est-à-dire de proposer la création d'une commission d'enquête sur un sujet que nous choisissons. Donc la demande est soumise au bureau du Sénat, à la présidence du Sénat, alors c'est en général accepté. Et voilà, c'est ce qui m'a valu de me retrouver en 2012. Moi j'ai été élu en 2011 au Sénat, ça fait donc 10 ans. Et je me suis retrouvé trois mois plus tard rapporteur d'une commission d'enquête. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une commission d'enquête. Mais ce sont des travaux qui ont vraiment transformé ma vision du monde. Je le dis partout, je l'ai vécu comme ça. Avant d'arriver au Sénat, j'avais des convictions, maintenant j'ai des certitudes. Parce que les commissions d'enquête, ce n'est pas n'importe quoi. Alors en ce moment, là, notre groupe vient d'en lancer une sur l'influence grandissante des cabinets privés sur l'action politique. Peut-être avez-vous entendu quelques échos. Il y en a eu de pas mal avec le cabinet McKinsey. Enfin, voilà, je ne développe pas, vous êtes au courant. Mais une commission d'enquête, donc, c'est une instance qui se réunit pendant 6 mois, qui dispose de moyens spécifiques d'administrateurs du Sénat qui vont travailler sur la commission d'enquête. Donc on est des sénateurs de toutes les sensibilités, on est une vingtaine, hein, et toutes les sensibilités sont représentées. Et ce qui m'a valu de me retrouver rapporteur en 2012 et 2013, parce qu'il y a eu 2 commissions d'enquête successives, c'est qu'à l'époque, le Sénat avait une majorité de gauche. Et donc voilà, ça a facilité les choses. Donc 6 mois de travail, des dizaines d'heures d'audition, quelques déplacements à l'étranger. Alors rassurez-vous, soucieux des deniers publics, nous ne sommes pas allés aux Bahamas, aux Bermudes et aux îles Vierges britanniques. On est allés en Belgique, on est allés en Suisse, on est allés à Jersey quand même, et à Londres, bien sûr, voilà, des rouages essentiels du système. Voilà, donc des dizaines de personnes auditionnées, des dizaines d'heures d'audition, des déplacements, voilà. Donc tout ça, on a une masse considérable d'informations. Et l'intérêt d'une commission d'enquête, il y a quand même 2 éléments essentiels, c'est que vous pouvez auditionner tout le monde. Les personnes ne sont pas invitées, elles sont convoquées et doivent se présenter devant la commission d'enquête. C'est ainsi qu'on a reçu le PDG de la BNP Paribas à l'époque, Bauduin Pro, et Frédéric Oudéa, Société Générale. Voilà quelques exemples des rouages des personnes qu'on a pu entendre. Et les personnes témoignent sous serment. Elles prêtent serment. Elles sont accueillies par le président, etc., de manière un peu protocolaire, mais c'est l'usage. Et ensuite, on prête serment de dire la vérité devant la commission d'enquête. C'est-à-dire que tous les propos tenus devant la commission d'enquête sont opposables en droit, s'il s'avère plus tard que y a eu parjure. Voilà. Donc c'est un outil de travail absolument formidable. C'est le travail que je préfère au Sénat, sincèrement, parce que ça vous donne accès à beaucoup, beaucoup de choses. Et dernier élément, on ne peut pas opposer au rapporteur d'une commission d'enquête le secret fiscal, par exemple. C'est-à-dire que moi, simple parlementaire, aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'aller à Bercy demander des comptes. Ça, c'est le privilège du président de la commission des finances et du rapporteur général. Mais quand on est rapporteur d'une commission d'enquête, pendant 6 mois, on a ces pouvoirs-là. Donc franchement, c'est pas inintéressant. Ça donne accès à des informations utiles. Et alors après, voilà, vous rendez un rapport qui est soumis à l'approbation de tous les sénateurs, de tous les membres de la commission. Si le rapport n'était pas adopté, ce qui est déjà arrivé, interdiction de le publier, interdiction de communiquer, et le rapport passe au pilon. Il y a un exemplaire dont les sénateurs prennent connaissance en prenant rendez-vous dans une salle, interdiction de prendre des photos. Enfin, c'est très cadré, tout ça. Et donc là, nos rapports ont été adoptés à l'unanimité. Alors on peut dire, il y a de l'hypocrisie chez certains, mais le sujet est devenu tellement insupportable, et les années qu'on est en train de vivre confirment l'idée que, en gros, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les services publics, pour la santé, l'éducation. Et de l'autre côté, il y a des milliards qui se barrent, j'emploie l'expression, et qui échappent à l'impôt, et qui échappent à la société, à la solidarité, à la République, quoi. Voilà. Donc ça, personne ne peut assumer ça. On a auditionné des gens, on a rencontré des gens très divers. Michel Barnier, à l'époque, il était commissaire. On l'a rencontré à Bruxelles. Il a accepté de nous rencontrer. Alain Lamassoure, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, l'ancien ministre de Chirac. On a parlé pendant 1h30 à la fin de l'entretien. Je termine là-dessus. Et je lui ai dit, mais pourquoi, monsieur, vous tenez ces propos? Parce qu'il parlait comme nous. Mais il dit, je suis comme vous. Moi, je défends l'intérêt général. Et donc, on a eu un vote unanime, ce qui n'est pas rien. C'est pas de la gloriole, mais ça donne du poids à ce rapport. Alors après, le rapport, il reste sur une étagère, si vous voulez. Vous le rangez, on n'en parle plus. Après, ça devient un outil politique. C'est ce qu'on a voulu en faire. On a fait des débats dans toute la France, on a écrit des bouquins, et ça continue dans ce sens-là. Voilà, schématiquement résumé, l'intérêt véritable d'une commission d'enquête au Sénat.
On note que vous avez vu votre transformation de votre vision du monde.
Absolument, absolument. Oui, non, mais je le dis et je le pense sincèrement. L'évasion fiscale, bon, on avait tous en tête un peu l'image d'Épinal, les cocotiers, les palmiers dans les océans, les lagons bleus, etc. Oui, il y a ça. Mais non, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est un système mondialisé. Vous allez à Neschin en Belgique, voilà, ça se passe là. Vous allez à Luxembourg, à 200 km d'ici. Il y a eu les révélations OpenLux, vous vous souvenez, l'an dernier, en février. Le Monde a sorti un dossier fabuleux là-dessus. 55 000 sociétés offshore existant au Luxembourg, détenant ensemble 6 500 milliards d'euros au cœur de l'Union européenne. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Je prends cet exemple-là. Voilà. Donc, il y a un travail politique à mener parce que cette révélation Open Lux, il y en a eu des tonnes, des révélations. Je crois que depuis Cahuzac en 2013, on a eu 15 scandales de ce type. Paradise Papers, Panama, etc. Ça fait un peu de mousse, 2, 3, 4 jours. Et puis après, ça retombe. Et après, on revient au business, quoi. Donc, c'est un sujet politique majeur. Et si on s'en empare pas, si on traite pas les choses sur le fond, si on déconstruit pas ce système hyper sophistiqué, avec des gens très brillants, une puissance de feu formidable, et des compromissions dans les gouvernements, dans les États, de l'hypocrisie, on n'avancera pas, quoi. C'est un sujet citoyen au sens profond du terme.
Entendu. Une question de Didier.
Oui, non, mais juste, de la Massou, on retiendra surtout le fameux amendement.
Oui.
Mais ce que je voulais dire, c'est, bon, il y a une récente commission d'enquête qui s'intéressait à l'indépendance des médias, où ont été auditionnés notamment Arnaud et
Bolloré.
On a quand même l'impression que la commission s'est faite un peu balader avec des réponses langue de bois. Est-ce que c'est pas justement un danger par rapport à ces commissions?
C'est un danger. J'ai fait le même constat, effectivement. Les auditions, j'ai suivi ça à la télé, dans le circuit interne du Sénat, Bolloré et Arnaud ont déroulé, quoi. Alors, on peut être confronté à ça, faut pas se mentir. Hein. Vous voyez, ces gens-là, chaque parole est pesée. Encore une fois, c'est sous serment, et ils savent que ça peut être opposé en justice. Donc, faut pas déraper. Si vous n'êtes pas tenace dans les questionnements, si vous ne revenez pas aux questions, effectivement, on vous balade. Voilà, les communicants, vous voyez, la banque BNP Paribas, première banque européenne, qui a un bilan financier qui est supérieur au PIB de la France. Voilà. Qui est-ce qui a le pouvoir? Le gars, il arrive face à la commission d'enquête, il mesure ses propos, quoi. Et on lui a préparé une fiche, une note, il sort pas de sa feuille, et il lit mot pour mot ce qu'on lui a dit. Donc il faut aller à la charge, effectivement. Il faut poser des questions qui dérangent, des questions précises. Sur la commission d'enquête actuellement en cours sur les cabinets privés, notre présidente, Éliane Assassi, est revenue à la charge sur des chiffres précis. On vous a payé 900 000 euros pour faire un rapport sur je ne sais plus quel sujet. Le gars de McKinsey, très embarrassé pour répondre, il n'a convaincu personne. C'est de l'argent public qu'on file à des cabinets privés pour un résultat peanuts. Ouais. Donc oui, il faut être tenace. Alors, moi, quand je suis arrivé, j'étais tout nouveau, quoi. Si c'était à refaire, je les ferais autrement, les commissions d'enquête. Je serais plus virulent, entre guillemets, tout en étant respectueux. On peut être respectueux et virulent, hein, sur le fond, vous voyez. Mais oui, il y a toujours le danger, parce qu'en face, on a du costaud, quoi. Ils doivent se dire... Et puis, au fond, après coup, je me suis dit... Frédéric Oudéa, je ne sais pas si vous vous souvenez des Panama Papers, voilà. Il avait dit à la commission d'enquête en 2012 que la Société Générale n'avait plus d'activité au Panama. Patatras, en 2016, les Panama Papers éclatent et viennent contredire les propos de Frédéric Oudéa. Je suis monté au créneau pour dire, il a menti devant la commission d'enquête, il faut demander des comptes à ce monsieur. Il est revenu, mai 2016, devant la commission des finances, mais on n'était plus dans une commission d'enquête, on était dans une réunion ordinaire. Donc, il pouvait dire, mais ça n'a pas empêché, vous regarderez sur Internet, j'ai posé 5-6 questions gênantes auxquelles il n'a pas répondu. La seule chose qu'il ait dite, ça m'a sidéré. Il s'est tourné vers la présidente de la commission d'enquête qu'il avait rencontrée en amont de cette audition. Et pour lui dire, monsieur le sénateur, vos questions sont embarrassantes. En se retournant vers la présidente de Michel André, présidente de la commission à l'époque, il lui a dit, madame la présidente, je ne pensais pas que nous reviendrions sur ces questions. Paf, on n'est pas dans une commission d'enquête. Mais voilà, au moins j'ai posé des questions qui dérangeaient et je n'ai pas obtenu les réponses, bien sûr. Donc oui, il y a un danger qu'on puisse se faire balader. Des Bolloré, des Arnaud, enfin, vous voyez un peu le calibre, quoi. Hein. Donc là, effectivement, il y a eu... Moi, je considère qu'il y a eu un loupé, quoi. Alors, ça peut se rattraper, mais il faut revenir à la charge.
Une question de René.
Oui, et dans ce cas, justement, où la tromperie est avérée, est-ce qu'il y a quand même des sanctions vis-à-vis de ces gens?
Alors, il y a eu... Pour qu'il y ait sanctions... Voilà, si un jour on apprend que telle ou telle personne, quel que soit son rang, sa qualité, a menti devant la commission d'enquête, il peut être traduit en justice. Mais il faut une décision du bureau du Sénat. Donc voilà, donc je me souviens à l'époque, moi j'avais saisi le bureau. Donc le bureau, c'est le président du Sénat, c'est les vice-présidents, c'est les questeurs, les secrétaires, c'est 20-23 personnes à peu près. Et c'est le bureau seul qui est habilité à aller en justice. Vous vous souvenez de l'affaire Benalla? C'est le bureau du Sénat, là, qui a donné feu vert pour aller en justice contre Colère, contre Benalla, etc.
Bon. Avec M. Sueur, là, oui.
Voilà. Là, ça s'est fait. Mais pour l'affaire Oudéa, j'ai saisi, ils ont décidé majoritairement, je sais que 4-5 collègues étaient favorables, mais la majorité a dit non, on va pas aller en justice. Donc voilà. Donc si le bureau du Sénat ne veut pas aller plus loin, on ne va pas plus loin. Mais oui, il y a eu un cas, je me souviens d'un professeur, c'était une commission d'enquête sur la pollution de l'air à l'époque, et il avait oublié de signaler à la commission d'enquête qu'il avait des intérêts avec Total. Ça a été révélé après coup, il a été poursuivi, je crois qu'il s'appelait Ravier, un truc comme ça, et il a été condamné. Mais la condamnation, pour qu'il y ait justice, il faut que le bureau du Sénat le décide. Mmh. C'est très politique. Donc là, la banque, on n'y a pas touché. Mmh. On ne touche pas au Grisby, quoi. Hein.
Entendu. Merci pour cette explication. On a besoin, effectivement, de savoir. Je crois qu'il y a un manque dans la société française d'informations sur ce qui se passe au Sénat, ce qui se passe au Parlement. Voilà. Et donc, c'est très éclairant ce que vous nous dire, ce que vous venez de dire. On en vient maintenant au milliard en fuite, si vous voulez bien. Et je voudrais m'interroger là-dessus, parce que on comprend bien que le système dans lequel on vit, ou la politique, ou les choix économiques du gouvernement, de l'État, ne sont pas quand même complices de l'évasion fiscale. Mais on a l'impression que, par certaines lois, par certaines règles, il est largement permissif. Ouais. Alors on peut revenir un peu en arrière sur des choses qui ont été décidées à Maastricht, c'est la libre circulation des capitaux, la libre circulation des hommes. Évidemment, ça favorise. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que... je ne sais pas si vous le permettez d'ailleurs. Ouais. Comment vous dites effectivement que l'État, permet aussi l'évasion fiscale ?
Je trouve qu'il y a, de la part des gouvernements, beaucoup de mansuétude, on va le dire comme ça. Hein ? Il y a quand même des points qu'il faudrait clarifier. Parlons de l'Union européenne. Tout à l'heure, je citais le Luxembourg. Personne n'a jamais demandé de compte au niveau européen au Luxembourg. Voilà. Moi, j'ai rien contre les Luxembourgeois. Mais le Luxembourg, assez pratique, là, qui ont été révélées par OpenLux, on a eu les pratiques de... Bon, l'Irlande, un pays magnifique, l'Irlande. J'adore sa culture, j'adore son peuple. Mais l'Irlande, c'est un paradis fiscal. Pourquoi Google Europe a son siège à Dublin ? C'est pas parce qu'ils aiment bien la Guinness, c'est parce que l'impôt est très doux là-bas.
Il faut aimer la Guinness quand même.
Oui, c'est pas exclusif. D'ailleurs, j'adore la Guinness, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Mais voilà, donc l'Irlande joue de son avantage compétitif. On est dans un espace européen où il y a déjà plein d'hypocrisie et d'ambiguïté. Pour l'Union européenne, dans le discours officiel, vous les entendez tous, Moscovici, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, il n'y a pas de paradis fiscal en Europe. On nous dit ça. Voilà. Et puis on apprend qu'il y a l'affaire OpenLux, c'est-à-dire le Luxembourg a quelques soucis, l'Irlande, Google a son siège Europe à Dublin pour des raisons fiscales, ils doivent 7 milliards d'euros au fisc français, rattrapé par la patrouille, négocie son impôt avec le fisc français, doit 7 et il paye 1, quoi. Voilà. Et en remerciement, Bercy va demander à Google d'aller repérer les piscines non déclarées chez les citoyens français. On marche sur la tête. Donc quand je dis mansuétude, hypocrisie, voilà un exemple. Il y a des paradis fiscaux en Europe, il faut le dire. Il y a eu les dernières révélations, les Pandora Papers, au mois d'octobre. Hein. C'est Chypre qui était ciblé. Chypre était cité. Chypre est membre de l'Union européenne. Mais voilà, aux yeux de l'Union européenne, Chypre n'est pas un paradis fiscal. À Malte, vous pouvez acheter un passeport maltais, ils appellent ça les Golden Visas, pour quelques milliers d'euros. Donc ça vous coûtera quelques milliers d'euros, mais vous allez en gagner beaucoup après. En devenant citoyen maltais, vous bénéficiez de la fiscalité maltaise. Malte, c'est l'Union européenne. Les Pays-Bas. Pays-Bas, c'est le siège des holdings, des grandes holdings internationales. Ils sont champions du monde. Nous, la holding Renault-Nissan a son siège aux Pays-Bas. J'entendais hier le PDG Renault qui dit que c'est pas pour des raisons fiscales. Mais c'est pourquoi, alors ? C'est quoi l'intérêt d'avoir le siège de la holding Renault-Nissan aux Pays-Bas ? Enfin, on est dans l'hypocrisie. On désigne pas l'adversaire. Là, s'il n'y a pas de paradis fiscal, donc on va pas les fermer puisqu'ils n'existent pas. Il faut en faire un sujet. Là, on préside l'Union européenne pendant 6 mois, là. J'ai pas entendu, à l'heure du jour, cette question, par exemple. Qu'est-ce qu'on attend, là ? Vous posez la question. On est tous les peuples européens sont pénalisés. n'y a pas que la France qui est touchée.
Bien sûr.
Voilà. L'évasion fiscale au sein de l'Union européenne, c'est 1 000 milliards d'euros chaque année. C'est 6 fois le budget de l'Union européenne. On pourrait en faire des choses avec ça.
En effet. René, peut-être une question déjà ?
Oui, justement, à propos des ONG. Donc, vous connaissez bien sûr l'ONG Oxfam. En 2021 et au début de 2022, elle a produit plusieurs rapports qui offrent un panorama assez complet sur les dérives financières, le creusement des inégalités durant la crise sanitaire et l'enrichissement inouï des 1% et aussi ses causes. Alors, que pensez-vous du travail de cette ONG ? Et est-ce qu'elle est pour vous, pour votre combat, une source d'information appréciable ?
Absolument.
Je suppose qu'en commission, vous recevez aussi les ONG,
absolument.
Celle-là.
Oui, oui, tout à fait. On auditionne tout le monde. On rencontre les ministres, les PDG des grandes banques et les ONG, comme Oxfam, comme CCFD Terre Solidaire, qui fait un travail là-dessus aussi depuis des années. Il y a beaucoup de gens, Tax Justice Network au Royaume-Uni, enfin voilà. Donc on n'est pas seul sur le combat, et ça c'est une première leçon qu'il faut tirer. C'est pas un sujet du hurlu-berlu dans leur coin, on est quelques élus à travailler là-dessus, pas beaucoup mais il y en a. Des ONG, des journalistes d'investigation, hein, le consortium des journalistes là, qui sort ses enquêtes régulièrement, enfin un travail remarquable, il exploite des millions de données. Pourquoi c'est pas Bercy qui fait ça ? Pourquoi il faut toujours attendre qu'un journaliste lance une affaire pour qu'on découvre qu'on ait la confirmation que l'évasion fiscale est une réalité. Les lanceurs d'alerte aussi. Je tire mon chapeau aux lanceurs d'alerte, parce que là, je suis en soutien particulier d'un d'entre eux, Nicolas Forissier. C'est lui qui a révélé les pratiques illicites de la banque UBS dès 2009. La banque UBS a été condamnée qu'en décembre 2021. Et la République va récupérer 1,8 milliard. C'est la plus grosse amende jamais infligée à une banque. Donc c'est possible. Vous voyez ? Mais ce lanceur d'alerte, il a perdu son boulot. Il a eu des menaces sur sa vie personnelle. Et là, aujourd'hui, il demande une reconnaissance de la République en étant nommé à l'Ordre national du mérite. Il ne demande pas d'argent. Il demande une reconnaissance de la République. Le gars, il ne partage pas mes idées, c'est un libéral. Mais il croit à l'intégrité. Et il n'accepte pas que des grandes banques et des grands groupes pillent l'État, parce que c'est ça le mot. On ferme des hôpitaux et ces gens-là s'engraissent, quoi. C'est inacceptable. Donc lanceurs d'alerte, journalistes, ONG, élus, journalistes d'investigation, tout ça, ça fait du monde, quoi. Donc oui, le travail qu'Oxfam mène, je le salue, ils ont sorti leur rapport la semaine dernière. Ouais. Enfin, c'est complètement hallucinant. On est encore dans une économie ralentie. Alors là, on nous dit évidemment, on n'a pas eu cette croissance-là, 7% depuis 52 ans. Mais on a oublié de rappeler qu'on n'a pas connu une crise pareille depuis 1945. Donc on était à moins 8 l'an dernier, plus 7 cette année. Donc évidemment, c'est historique, mais on a oublié qu'on était à moins 8. Quoi. Bref. Mais tout ça n'a pas empêché les fortunes de continuer de prospérer. Oxfam le démontre. Les 10 plus gros milliardaires du monde ont doublé leur fortune pendant les 19 mois de pandémie. Mais c'est-à-dire que l'économie s'arrête et que ces gens-là continuent à gagner de l'argent. Ça illustre parfaitement l'idée que le fric, la finance, est complètement déconnectée de l'économie réelle. Personne n'en profite, sauf ces 10-là. Enfin, j'ai vu un chiffre dans le rapport d'Oxfam. Si on additionnait la fortune des 10 plus gros milliardaires du monde, il faudrait que ces 10 personnes, en dépensant 1 million de dollars par jour, viendraient à bout de leur fortune cumulée au bout de 414 ans. Vous voyez ? C'est démentiel.
Oui,
c'est démentiel. Il y avait des manifs, j'ai dit, dans les rues, pour réclamer un peu plus de sous pour mieux vivre. On est dans ce monde-là. C'est incroyable. Donc Oxfam, bravo.
Oui.
Et on peut signaler aussi que ATTAC a lancé donc l'année dernière l'Observatoire de la justice fiscale.
Excellente idée.
Voilà. Donc oui, donc vous l'avez résumé.
Oui, non, c'est une excellente idée. Je me sers aussi de ces travaux parce que faut qu'on s'y mette tous. Il y a des compétences partout. On n'est pas sachant surtout. Voilà, on progresse, on essaie de. Mais si on met en commun toutes ces données, oui. Moi, j'avais proposé à M. Darmanin. En 2018, Darmanin avait annoncé la création d'un observatoire de la lutte contre la fraude fiscale. J'ai dit, c'est une excellente idée. On l'entend à la commission des finances du Sénat quelques semaines plus tard. Il nous dit, écoutez, j'ai dit, pourquoi l'observatoire n'est pas encore créé ? J'ai pas trouvé de président. Alors j'ai levé la main, j'ai dit, je suis candidat, à titre bénévole. Il m'a reçu, excellente idée, et puis pouf, quoi, c'est tombé à l'eau. Voilà, il m'a même reçu à Bercy dans son bureau, mais je dis, c'est une idée du gouvernement ou... Bah, il me dit, hein, texto, hein, ce que je vous dis là, je te cache pas qu'au 6e étage, Bruno Le Maire, on m'a dit, tu vas encore emmerder les entreprises. Hein. Et puis ça s'est arrêté là, évidemment. Hein. Mmh. C'était juste avant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu le grand débat de Macron, et il a fait sa conférence de presse en avril 2019, où il a dit, je vais demander à la Cour des comptes d'évaluer le montant de la fraude fiscale. Donc j'avais ma réponse, le truc ne s'est pas fait, bien sûr. Donc ça va un peu dans le même sens, tout ça.
Il y a toujours cet amalgame entre les entreprises de production, je dirais, et les entreprises financières. Ouais. Alors qu'on a d'ailleurs fait une émission dessus. Il se trouve que la finance, en fait, est préjudiciable parfois, et souvent même, aux entreprises.
Elle est maîtresse du jeu, en fait.
Complètement. Complètement. Préjudiciable aux entreprises et préjudiciable aux États. On y viendra après. Mais oui, mais... L'intérêt des financiers, c'est de gagner encore plus d'argent et encore plus vite. Investir dans une entreprise, bon, il y a des risques. Hein, ça peut ne pas marcher. On peut être confronté à une crise, là. Mais là, la finance, elle fait de l'argent, mais à une vitesse folle. Vous avez vu que le groupe Apple, hein, ceux qui fabriquent les petits téléphones magiques, là, vient de passer la barre des 3000 milliards de valorisation boursière. C'est plus que les entreprises du CAC 40 en France. Ce seul groupe-là. Donc, voilà, moi, financier milliardaire, je vais plutôt aller faire de la finance qu'investir dans la recherche dans ma boîte, former les gens, améliorer leur salaire, leurs conditions de travail. Franchement, je vais gagner plus vite. Et si je prête mon argent aux États, alors là, c'est garanti, là. Risque zéro. Peut-être qu'on y viendra après.
Oui, justement, sur la dette, vous dites très fortement, je trouve, tous les deux, la dette est une marchandise.
Oui.
Expliquez un peu.
Alors. Oui. Alors, ça paraît fou, mais oui, cette question de la dette doit être au centre des débats. Parce que, bon, le discours dominant qu'on entend, il faut payer la dette, on vit au-dessus de nos moyens, vous endettez vos petits-enfants, blablabla. Culpabilisation. D'ailleurs, j'ai découvert qu'en allemand, en langue allemande, le mot dette...
Ça veut dire faute.
Et le mot faute sont traduits par le même mot, dit Schuld. Entschuldigung, quand on s'est présenté l'excuse en allemand, on dit ça. Excusez-moi, je suis endetté. Voilà, tais-toi, t'es coupable, tu veux payer. Faut que tu payes. Donc pour payer, ben, il faut réduire la dépense publique. Il faut retarder l'âge de départ à la retraite. Il faut réformer l'assurance chômage. Il faut réduire les moyens des hôpitaux. Bref, augmenter voilà le discours CRDS. Dominant. Discours dominant qu'on entend depuis 40 ans. Le dernier budget équilibré de la France, c'est 1974. À l'époque, on a fait un excédent de 0,12% du PIB. Voilà, depuis, on est en déficit... Et donc, pour combler le déficit, on doit emprunter l'argent. Je fais court, hein, j'essaie de résumer, mais je travaille là-dessus. Je vais proposer bientôt un diaporama pédagogique sur ce sujet passionnant. Jusque dans les années 70-80, c'est la Banque de France qui faisait des avances à l'État français. La Banque de France pilotait l'épargne, elle fixait les taux, etc. Elle avait un rôle économique essentiel. Les Trente Glorieuses, c'est ça aussi. Nationalisation en 45 de la Banque de France, et c'était l'outil financier de l'État. Les marchés financiers ont dit, bon, ça suffit, il faut faire évoluer les choses. Maintenant, il faut que la dette des États devienne une dette qu'on met sur le marché. La dette française, comme la dette de tous les États, est mise en marché. Traité de Maastricht 1992, article 123 du traité européen, interdiction est faite à la Banque Centrale Européenne de financer directement les États. Donc maintenant, vous financez sur les marchés financiers. Alors, les marchés financiers, bah, c'est les grandes banques, c'est les assureurs, c'est les fonds de pension, c'est... Et après, on ne sait même plus qui c'est. Je vous dirai pourquoi. J'ai assisté, il y a une agence, l'agence France Trésor a été créée en 2001, à Bercy. C'est elle qui met nos titres de dette sur le marché. Il y a des enchères, des adjudications, ça s'appelle. Voilà. Vous pouvez regarder sur le site d'agence France Trésor, il doit y avoir une adjudication lundi prochain. On va emprunter 7 milliards. Donc voilà, vous devez donner vos offres sur l'ordinateur, ils sont devant des écrans là, comme les traders à la bourse. Réponse attendue 14h50. Donc voilà, vous voyez les offres arriver, j'ai assisté à ce truc, toc 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 toc. 14h50, on arrête et on fait le point. Et je vous jure que c'est vrai, un pays qu'on dit surendetté au bord de l'apocalypse qui vit au-dessus de ses moyens, on fait la queue pour nous prêter des sous. On fait la queue. Il nous faut 7 milliards, on nous en propose 3-4 fois plus. Et on propose même des taux négatifs. Mais comment c'est possible, ça ? On propose des taux négatifs parce que un État, il est immortel. Vous voyez, une entreprise, elle peut capoter. Un ménage, bah, il peut se séparer, il peut avoir une perte de revenus, divorce, maladie, etc. Donc le risque, il y a un risque. Avec un État, risque zéro. Risque zéro. L'Angleterre a fini de payer sa dette des guerres napoléoniennes à la fin du 19e siècle. 87 ans plus tard. Donc un État, on peut lui prêter, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on a la sécurité. Vous voyez ? Donc, on vend la dette, comme d'autres vendent des saucisses ou des chaussettes. Oui, la dette est devenue une marchandise, et les créanciers raffolent de cette marchandise. Et voilà. Hein ? Bon, voilà. Donc voilà pourquoi ce marché de la dette fait partie du libéralisme financier mondial. C'est une nourriture essentielle pour eux. Voilà. Et nous, les citoyens, on dit que cette dette, c'est notre faute et qu'il va falloir la payer. Il y a un hiatus, là.
Il doit y avoir quelque chose comme ça.
J'y reviendrai plus tard.
Oui. On va passer aux propositions pour une finance éthique, si vous voulez. C'est Didier qui amène.
Oui, sur notamment les propositions. Enfin, vous proposez depuis longtemps, enfin vous et votre frère, mais bon, vous n'êtes pas seul. Une COP fiscale à l'image de ce qui se passe pour les COP environnementales, sachant que bon, les COP environnementales, on en voit quand même les résultats parfois plus que décevants. Donc, selon vous, comment ça pourrait se faire sous l'égide de l'ONU, j'imagine. Et, oui. De quelle façon on pourrait essayer d'avoir des choses un peu plus coercitives, un peu plus, disons, qui soient un peu plus efficaces.
Absolument. Oui, l'idée de la COP fiscale, voilà, on l'avait lancée dans le premier bouquin. Alors, c'est une idée qui a prospéré un peu. Elle a été reprise à l'Assemblée nationale sous forme d'une résolution en février 2017, là, juste à la fin du mandat. Elle a été reprise également par le Conseil économique, social, environnemental. Certaines ONG l'ont reprise. Voilà. Mais malheureusement, ça s'est arrêté au Sénat, parce que si le Sénat l'avait aussi adopté, ce à quoi on a travaillé, ça devenait la résolution de la France, quoi. Et donc, c'est un autre poids politique et il faut assumer. Et il y en a qui ne voulaient pas assumer ça. Bon, ça s'est arrêté là, d'un point de vue juridique. Mais l'idée est toujours là. L'idée, c'est de ne plus laisser la gestion de la finance aux seuls financiers. Aujourd'hui, la finance, l'impôt multinational, là, on en parle au G7, au G20, l'OCDE, 38 États du monde les plus riches. Le monde, c'est 200 États. Vous voyez, on dit laissez faire les experts, laissez faire les sachants, c'est un sujet compliqué, on s'en occupe, pas d'inquiétude. Non, non, non. C'est un sujet citoyen. Donc c'est ça l'idée de la COP. Alors oui, c'est pas la certitude d'une réussite, hein. Je suis d'accord. Les COP climatiques, c'est pareil. Elles sont aussi confrontées à des enjeux, des intérêts. Voilà, vous n'allez pas nous faire suer que ça, quoi. Hein. Bon. Oui, il faut qu'on s'en mêle tous. C'est pas qu'une affaire de spécialistes. Ça nous concerne tous, on le voit bien, parce que les conséquences de ces crises financières, de cette domination de la finance, c'est nous tous qui la supportons. Même si c'est insupportable. Les gens veulent vivre mieux, mais on est complètement vampirisé par cette finance complètement débridée, sans règles, mondialisée, sans frontières, sans intérêts, enfin, une cupidité sans nom, je suis désolé, c'est comme ça. Donc voilà, il faut en faire un sujet citoyen, qu'on partage tous, les ONG, les lanceurs d'alerte, les journalistes, et voilà, et qu'on s'en empare et qu'on laisse pas ça aux mains des financiers qui vont toujours gérer les intérêts des financiers. Voilà.
Des appuis à l'étranger de cette idée de COP ?
À l'heure d'aujourd'hui, à ma connaissance, non, ça n'a pas été repris. Alors, là aussi, ça nécessiterait un travail international. Alors, on a rencontré même en Suisse, j'ai rencontré un gars comme Jean de Sigler, vous connaissez sans doute, un homme remarquable. Des quelques militants à Londres également, Tax Justice Network, sur Jersey notamment. Donc oui, il y a des choses qui se disent un peu partout, mais il faudrait fédérer toutes ces forces, effectivement. Donc, si un État s'emparait de ce sujet, ça aurait une autre allure, quoi. Vous voyez ? On peut tous faire des choses, hein, les uns les autres, mais si un État inscrit ça à l'ordre du jour, bon voilà, nous, moi je porte ça, si Macron porte ça à l'Union Européenne, là, allez, on y va, les gars. Il ne le fera pas s'il n'y a pas une poussée démocratique pour l'exiger, quoi.
Et sinon, vous y avez en partie répondu, mais comment mettre en place un système fiscal juste et pour quelles priorités
Là, on a des défis devant nous. Là, on a des défis, la transition énergétique, le défi climatique. qui doit rien à la fatalité. Alors oui, ça va coûter cher. Les passoires énergétiques en France, les centaines de milliers de logements inadaptés qui coûtent la peau des fesses aux locataires d'abord. Il faut mettre le paquet. Ça nécessitera beaucoup de moyens, beaucoup de volonté. Mais l'enjeu, il est là, quoi. Il y a la transition climatique qui est même plus une option. On l'a. Et puis des inégalités qui explosent, là. Même des organismes qui ne sont pas des officines crypto-communistes, hein, le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, même la Banque centrale européenne qui dit, attendez, les inégalités, ça devient dangereux, là. Ils ne veulent pas changer le système, ils veulent que le système perdure. Mais si ça va trop loin, ça va finir par péter. Ils disent ça, les gars. Ils ont peur. Ils voient que c'est intenable. Donc, la transition climatique, les inégalités qui ont explosé, on en parlait tout à l'heure, alors que l'économie du monde a été arrêtée et ralentie, ça devient insupportable et nul ne sait où ça peut mener, quoi. Donc voilà, il y a de l'argent dans le monde, oui. Le PIB du monde, c'est 80 000 milliards de dollars. Alors évidemment, ces chiffres-là, par rapport à une vie humaine, ça ne nous parle pas. Nous, quand on a payé la baraque, la bagnole, c'est bon, quoi. Mais il y a des gens... l'unité de compte, c'est le téra-milliard pour certains. Voilà, c'est une autre planète. Mais c'est 0,1% du monde, quoi. Donc oui, l'impôt, des États qui se laissent plus embarquer là-dedans, des États souverains, qu'on sorte des griffes des marchés financiers. Notre dette, on peut la financer nous-mêmes. Les Japonais, ils sont à 240% d'endettement. Deux fois le nôtre. Mais seulement les Japonais, ils détiennent leur dette à 95%. Institutions japonaises et les citoyens. Un citoyen français ne peut pas acheter de titre de dette française. Ou via les assurances vie, vous voyez. Mais avant, on achetait les bons du Trésor. Il y a 5 500 milliards d'épargne en France. Pourquoi on ne pourrait pas, nous, aider l'État à se financer? Moi, ça ne me gêne pas s'il faut financer de l'hôpital, de l'éducation, des collectivités, une société sympathique, ça ne me gêne pas. Vous voyez? Pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on ne sortirait pas des griffes des marchés financiers qui nous tiennent, là? Si tu augmentes le SMIC, moi j'augmente les taux, attention, ça va te coûter 15 milliards. Hein.
Mais justement, l'une des questions essentielles, c'est quand même de comment on peut... Sans imaginer un changement de pouvoir politique qui nous serait favorable, enfin ça c'est une autre hypothèse, mais comment récupérer cet argent? Est-ce qu'on se donne des moyens coercitifs? Est-ce qu'on...
Oui. Déjà, il faudrait considérer que l'évasion fiscale est un délit. Aujourd'hui, l'évasion fiscale, dans le droit français, n'est pas considérée comme un délit. Alors, il y a toujours eu ces cas emblématiques. Bon, Cahuzac s'est fait prendre la main dans le pot de confiture. Mais aujourd'hui, il est encore, c'est qu'un bracelet électronique, quoi. D'accord? Balkany, bon... Parce qu'on parle que des personnes visibles, mais au-delà des personnes physiques, c'est le système, c'est les entreprises. Les grosses masses sont là. Mais bon, comment on traite Balkany? Le gars, il a un bracelet et puis il vit sa vie, quoi. Il vit sa vie. Il a même transgressé les règles et il se passe rien. Donc l'évasion fiscale n'est pas considérée comme un délit et elle n'est pas punie. Je suis désolé. Google doit 7 milliards à la France. Écoutez, vous nous faites... On a inventé, c'est la loi Sapin qui a inventé ça. Le ministre de l'adversaire du monde de la finance, là, vous savez. Ils ont tremblé, les gars. On a inventé la Convention judiciaire d'intérêt public, la CGIP, ça s'appelle, dans la loi que Sapin avait portée en 2016 pour combattre l'évasion fiscale, la lutte contre la fraude fiscale. Et la Convention judiciaire d'intérêt public, c'est un truc à l'américaine, c'est le plaider coupable.
Ah oui.
Vous voyez, Google dit, OK, je reconnais, j'ai triché, j'ai menti, nanana. Mais je vous fais un petit chèque. Et vous ne me mettez pas en justice.
On n'en parle plus.
D'accord. C'est la République française qui fait ça. Il faut supprimer ce truc. Monsieur, vous avez triché, vous avez gagné autant. Ici, le taux d'imposition, c'est ça. Vous payez ça. Point. Alors évidemment, ils ont des armées d'avocats. Ils sont blindés, les gars. Mais c'est un combat politique. Il faut que l'État se fasse respecter comme souverain. Vous voyez. Donc, voilà. Oui, il faut des mesures coercitives. Renforcer les moyens du contrôle. Enfin, on va demander à Google d'aller contrôler si le mec a déclaré sa piscine. Non, mais on est où, là? Voilà, ils ont perdu 38 000 postes, je crois, le DGFiP, depuis l'an 2000. C'est colossal. Alors, bien sûr, il faut des gens formés, il faut des moyens techniques, parce que vérifier la comptabilité d'un groupe comme Total, vous imaginez le boulot que c'est, hein, ça se fait pas au coin d'une table. Voilà, il faut des armées, il faut des moyens techniques, voilà. Il faut mettre le paquet. C'est un choix politique. Il y a des dépenses à faire, mais là, ça va générer de la recette derrière. Hein. Ipso facto. Voilà.
Il faut réarmer l'État, hein, dites-vous.
Ah, mais complètement. L'affaire des cabinets privés dont je parlais, là. on a déshabillé l'État, on l'a vidé de ses capacités. On a des gens extrêmement brillants, qui sortent des grandes écoles, mais les gars, c'est le mercato, hein. Ils sont achetés, on leur propose 10 fois le salaire. Je me souviens d'un directeur général du Trésor, Bruno Bézard, je me souviens de lui. Il était avec le Sapin, d'ailleurs. Direction générale du Trésor, c'est le deuxième poste le plus important après le ministre à Bercy, hein. C'est un poste clé. Le Trésor, c'est le cœur de la machine. Mais le gars, il a quitté son boulot. Il a rejoint un fonds d'investissement franco-chinois, Cathay Capital, je crois. Bon, voilà, il a fait ce choix. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On laisse faire? On accepte? On condamne? Oui. Voilà.
Oui, alors, effectivement, je vois bien, je reviens un peu sur l'histoire de l'ONU et de la possibilité de faire une COP, mais il y a quand même cet organisme qui perturbe sérieusement, c'est le G7, le G20, enfin, qui n'ont aucune réalité juridique. Enfin,
aucune légitimité démocratique. Oui. Vous voyez ? Effectivement. Voilà, G7, G20, ils se sont réunis pour parler de la taxation des multinationales, qui est une bonne idée. Mais déjà, Biden avait annoncé 21%, on est déjà arrivé à 15%.
Oui.
Vous voyez, déjà. Mmh. Et d'ici à ce que ça mette en place, il va se passer du temps. Parce que ça va actionner les lobbies, là. Hein. Ça va y aller. Hein. Bon, tu ne vas pas nous faire payer ça. Moi, je représente 35 000 emplois. Enfin, c'est sans arrêt comme ça, quoi. Donc, s'il n'y a pas une volonté politique forte, ben, on va caler. Et donc, l'impôt sur les multinationales, déjà, on a reculé. Déjà, on a reculé. L'annonce de Biden, c'était pas mal. Il a surpris. Mais on a dû lui dire, calme-toi, Joe. Hein. Voilà. On va ramener à 15, hein, d'accord ? C'est comme ça, je caricature un peu, mais c'est comme ça que ça marche.
En fait, ce serait, du coup, moins taxé des entreprises qui le sont déjà un peu plus que 15. En
fait. Oui, absolument. Il y a des, voilà, tout à fait. Il y en a qui vont gagner, il y a certains États où l'impôt était supérieur à ça. Enfin, oui, donc, oui, ils vont gagner. Et on a déjà extrait, je termine là-dessus, on a extrait les industries extractives et les activités financières. D'accord ?
Oui.
Vous aurez une dérogation. Voilà.
Et même, je crois que le taux d'imposition à 15% n'est même plus considéré comme plancher.
Non.
Carrément, en fait, ce sera une imposition. Enfin, ce sera même encore plus avantageux qu'avant pour bon nombre de multinationales.
Absolument. Je parlais tout à l'heure du groupe Apple. Bon, il y a eu aussi quelques démêlés que la commission de Bruxelles, c'est la commissaire danoise, la Margrethe Vestager, a dit il y a quelques années, Apple, vous devez 13 milliards d'euros à l'Irlande. Mm-hmm. Alors, 13 milliards d'euros pour l'Irlande, c'est un quart de leur budget. Hein. L'Irlande, 4,5 millions d'habitants. Bon. Ils ont contesté en justice, ils ont gagné. Ils ont gagné auprès de la Cour de justice de l'Europe. Là. Voilà, ils ont contesté avec des arguments juridiques, d'établissement stable. Enfin, voilà, la richesse n'est pas produite dans ce pays, elle est produite là. Enfin, tous des montages très judicieux. Et en fait, on s'est rendu compte que le taux effectif d'imposition d'Apple, parce qu'en Irlande, c'est 12,5 l'impôt société. Leur taux effectif Apple, c'est 0,005%. Vous voyez ? Donc voilà. C'est les grands groupes qui font la pluie et le beau temps. C'est eux qui décident de payer tel impôt et dans tel endroit. Alors évidemment, l'impôt a été créé à l'époque où l'industrie voilà, était à tel endroit, on ne délocalisait pas. Mais aujourd'hui, Apple, Google, Netflix, Amazon, c'est mondial. Amazon en 2020, 44 milliards de chiffre d'affaires, 0 euro d'impôt. Ils sont implantés au Luxembourg. Magique. Magique. Donc c'est vraiment pour les États. Alors, pas les États pour l'État, mais l'État garant de l'égalité républicaine, quoi. C'est un vrai danger. C'est un vrai danger.
Une question de Didier.
Oui, juste une question un peu académique. Moi, je vous ai vu souvent en débat public organisé par Attac, et c'est une question qui revient assez souvent. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on pourrait faire donner des exemples, simplement, des 80 milliards, justement, qu'on récupérerait, quoi.
C'est très simple.
On va terminer là-dessus, d'ailleurs.
Voilà. On a un déficit annuel, là je ne parle pas du déficit causé par la pandémie, parce qu'il est exceptionnel, on est à 150 milliards. Mais avant la pandémie, le déficit était de l'ordre de 75-80 milliards par an. Bon, voilà. On estime que le coût de l'évasion fiscale chaque année pour la France est de cet ordre-là, 80. Il y en a même qui vont jusqu'à 100 milliards, les militants syndicaux du Sud, Finance. Oh. Allez, on va dire 80 milliards, c'est un chiffre qui m'arrange bien. Il y a 800 000 naissances par an en France, à peu près. Si vous divisez 80 milliards par 800 000, c'est-à-dire que chaque bébé qui naît, là, au lieu qu'on nous dise qu'il a 41 000 euros de dette, oui. il a 100 000 euros de crédit au titre de l'évasion fiscale. Ouais. Vous faites la différence, et ben le bébé, il a 59 000 euros de crédit pour financer sa crèche, ses couches et son éducation. Si on disait ça tous les soirs à la télé, les gens diraient, ben oui. Alors je dis pas que ça va se régler comme ça, les 80 milliards. C'est pour ça que j'avais demandé qu'on fasse un observatoire pour aller taper dans le truc, là. Mais ça permettrait ça. Parce que là, ça fait 47 ans qu'on nous dit déficit, 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 il n'y a plus de sous. Si, si. Ben, on renverse le logiciel. On dit, s'il y a des sous, il faut s'en saisir avec l'impôt. Progressif, juste, équitable, que personne n'y échappe. Et on construit un modèle de société pour satisfaire tout le monde. Voilà ce que j'ai envie de dire.
Au lieu de ça, on parle de la prime Zemmour pour les bébés nés à la campagne.
On croit toujours être arrivé au fond, mais non, après le fond, il y a encore un fond. Quoi.
Ouais.
C'est affligeant.
Atteint le fond, mais creuse encore.
Exactement.
Merci, Éric Boquet, de votre intervention, de tout ce que vous dites et de tout ce que vous nous dites et de votre conviction en plus. Nous sommes sur Radio Campus. Il est
12h45,
voilà. Et on va passer, 46 même, et on va passer une chanson, une goguette. Une goguette, vous savez ce que c'est ? Une goguette, c'est une chanson malveillante avec les paroles d'une autre, avec la musique d'une autre chanson.
Je connaissais pas.
Là, je crois que vous allez connaître la musique en question.
Ok.
En guise d'introduction à cette goguette militante, donc, financier, actionnaire de tous les pays. Unissez-vous. Debout les nantis de la terre, debout ceux qui n'ont jamais faim. Le champagne hurle dans nos verres, c'est le cocktail de la faim. Du buffet, faisons table rase, les toasts debout, debout. La plèbe patauge dans la vase, ils ne sont rien, restons tout. C'est la flûte, la contour, c'est demain. L'évasion fiscale, sauvera le genre humain. C'est la flûte finale, la contour, c'est demain. L'évasion fiscale.
C'est moche, les gens ont bleu de travail.
C'est vrai, ça.
Franchement, les pauvres n'ont aucun goût. Surtout les syndiqués sudrail, qui en plus ont des poils partout. Préférons la beauté naturelle des dirigeants du CAC 40, qui eux ne sentent pas des aisselles et qu'ont pas les mains dégoûtantes.
C'est la flûte finale, trinquons tous et demain. L'évasion fiscale sauvera le genre humain. C'est la flûte finale, trinquons tous et demain. L'évasion fiscale sauvera le genre humain.
Financiers, actionnaires, nous sommes le parti des vrais travailleurs. La terre n'est pas pour les sous-hommes, pas de place pour les brailleurs. Restez bien cachés dans nos usines, à mériter ce qu'on vous paye, ou pour remplir nos verres de gin, et touchez pas à nos bouteilles.
C'est la flûte finale, trinquons tous et demain.
C'était les goguettes en trio mais à quatre, en concert, là, c'est pas les applaudissements du studio aussi, hein, mais ils le méritent bien. Eh bien, on va passer aux actualités d'attaque et c'est évidemment René qui s'y colle. À toi René.
Oui, alors au plan national déjà. Au Bourget, Alternativa, Attaque et Extinction Rébellion dénoncent la responsabilité des plus riches dans la crise climatique. Le vendredi 21 janvier, des activistes ont investi le tarmac de l'aéroport d'affaires du Bourget pour dénoncer la responsabilité des plus riches dans la crise climatique. Les jets privés, possédés en moyenne par des fortunes de 1,3 milliard d'euros, sont 10 fois plus polluants que les avions de ligne et vivent actuellement un âge d'or et ont vu leur usage augmenter de 20% en un an.
Pour Julien Rivoire d'Attaque France, porte-parole d'Attaque France tout récent, les ultra-riches sont des ultra-pollueurs. Les jets privés, symboles de leur sécession, sont une aberration climatique. L'égoïsme de cette minorité n'a pas une fatalité. Les pouvoirs publics peuvent agir. Il faut interdire ces vols inutiles et s'assurer que les ultra-riches paient leur juste part d'impôts pour assurer le financement de la transition écologique. J'aime bien ce terme très très fort qu'on voit de plus en plus souvent. C'est la sécession des riches.
Extinction Rébellion France, Attaque France et Alternativa Paris dénoncent l'hypocrisie du gouvernement et exigent des mesures ambitieuses pour que les profiteurs de la crise, premiers responsables du dérèglement climatique, mais grands gagnants du quinquennat, payent la facture de la crise climatique et sanitaire. Elle demande que l'inclusion des jets privés dans le projet européen de taxation du kérosène aérien soit une priorité de la présidence française de l'Union européenne et qu'elle aboutisse à terme à la simple interdiction d'usage du jet privé et la mise en place d'une taxation ambitieuse des grands patrimoines, donc un ISF renforcé, si vous voulez, permettant une juste contribution des plus riches à la lutte contre les inégalités sociales et au financement de la bifurcation écologique.
Alors, une nouvelle parution, vous savez qu'Attaque publie beaucoup, et notamment aux éditions Les Liens qui libèrent, pour la modique somme de 10 euros. Donc, c'est Macron, on fait le bilan. En 2017, la France s'est retrouvée avec un président tout neuf qui se voulait moderne et ouvert. Un quinquennat plus tard, la politique de ce jeune chef d'État s'est révélée n'être que le recyclage des vieilles recettes néolibérales. Baisse des impôts, destruction des services publics, aide massive aux entreprises. Quant au progressisme affiché, il a été emporté par un flot de mesures liberticides, de décisions verticales et de gages donnés à la droite xénophobe. Sans oublier les petites phrases sur les Gaulois réfractaires, les Amish, les feignants, les gens qui ne sont rien, bref, tous ceux qui n'ont pas le bon goût d'être des premiers de cordée. À l'approche des présidentielles, Attaque tire le bilan d'un quinquennat calamiteux. Éducation, droits sociaux, santé, liberté publique, droits des femmes, culture, fiscalité, environnement, immigration. En 23 chapitres, l'association pose une analyse sérieuse et accablante sur les choix d'Emmanuel Macron. Vous pouvez commander ce livre sur le site d'Attaque.
Et nous, d'ailleurs, nous allons faire une émission sur le bouquin, donc le 19 février, ici. Ce sera entre nous, hein, les copains, on est bien d'accord là-dessus.
Oui.
Et je crois qu'on va essayer de faire que ce bouquin soit quelque chose de très utile pour la campagne électorale. Il est important d'intervenir dans la campagne électorale quand même.
Oui.
René.
Note du 6 janvier 2022. Macron, dépôt de bilan fiscal, réalisé par l'Observatoire de la justice fiscale et venant en complément de l'ouvrage « Macron, on fait le bilan », mais plus focalisé sur les mesures fiscales prises depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, la présente note détaille les mesures de ces 5 dernières années et revient sur l'approche idéologique qui a guidé ces mesures et sur le bilan de celles-ci, sans omettre d'évoquer la question centrale de la dette publique. Elle est téléchargeable sur le site d'Attaque France.
Donc une initiative au plan local sur un débat formation sur la fiscalité organisé par les trois attaques de la métropole. Donc c'est programmé par les trois comités. Donc cet événement se déroulera le samedi 5 février, donc samedi prochain à partir de 14h au Polder ALM. En lien avec l'Observatoire de la justice fiscale et l'ouvrage d'Attaque « Impôts, idées fausses et vraies injustices », il offrira une analyse plus détaillée des différentes questions liées à la fiscalité. Donc avec pour intervenant, il y aura Vincent Drezet, évidemment, économiste fiscaliste, ancien secrétaire général de Solidaires Finances Publiques et membre d'Attaque. Et c'est lui aussi qui pilote l'Observatoire des inégalités, enfin l'Observatoire de la justice fiscale. Donc l'événement est ouvert à toutes avec une fois une demande d'inscription au préalable, la jauge étant limitée à environ 35 personnes.
Alors Vincent Drezet, on l'a reçu ici en novembre. Et effectivement, je crois que ce qu'il a dit avec beaucoup de pédagogie, on a été suscité, invité à dire ben, on pourrait peut-être en faire plus. Quoi. Et donc, on ne fait pas suffisamment de formation interne localement à Attac. Hein. Ça existe avec nos CNCL, nos conférences nationales des comités locaux, mais il nous manque quand même quelque chose de l'ordre de la formation, tout simplement, à l'interne. Et donc, du coup, on invite les autres Attac du département de Valenciennes et de Dunkerque, quand c'est possible.
Donc, j'ajoute juste, il y aura une... C'est un peu en trois parties. Donc, il y aura une première partie sur les questions de la dette, dette publique, dette privée, dette des entreprises. Il y aura la justice fiscale, l'évasion fiscale. On en parlera aussi. Il y aura donc différents sujets qui seront développés par Vincent Drezet. Ensuite, il y aura une petite partie buffet, disons un goûter. Et ensuite, ça sera les questions-réponses des personnes qui seront présentes. Avec aussi une possibilité de joindre la réunion en visio.
En effet. René, continue.
Alors, les autres actions prévues par les organisations dans lesquelles nous sommes impliqués. Déjà, il y a l'association France-Palestine Solidarité qui organise une manifestation. Enfin, le titre, c'est BNP Paribas, cessez de financer les crimes d'Israël. Une manifestation est prévue aujourd'hui à 11h, place Richebay à Lille.
Ce qui est bien avec Paribas, c'est qu'ils sont dans tous les coups, en fait, dans tous les mauvais coups. Je ne parle pas de l'extraction, où c'est un scandale en plus. C'est tout à fait étonnant, quoi. Ça nous sert bien.
Parc Saint-Sauveur, qui a l'objectif de création d'une coordination locale contre les grands projets inutiles et imposés dans la métropole. NADA, dans le cadre de l'enquête publique qui durera jusqu'au 14 février, propose un rassemblement contre l'agrandissement de l'aéroport samedi 5 février à 14h30, place de la mairie à Léquin. Avec prise de parole des collectifs présents, ateliers et animations thématiques. Je voudrais poser aussi une question par rapport à Marquis, s'il y a du nouveau.
À mes connaissances, non. Il y avait eu ce rassemblement du collectif le jour du conseil, le 17 décembre. Mais bon, il y avait que le bureau qui était en présence physique dans la salle et nous, on était en visio à la maison. Par rapport au Covid, bien sûr. On avait réadressé, le collectif et moi-même, comme conseiller communautaire, un courrier à Damien Castelin pour demander qu'un échange ait lieu, une rencontre ait lieu pour réfléchir à un projet alternatif. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Il y a un conseil le 25 février, là, fin du mois. Ça sera l'occasion de réinterpeller pour qu'au moins il y ait une réponse. Pour l'instant, zéro réponse de Damien Castelin, président.
C'est quand même terrible.
Non, mais cette mêle, vraiment, enfin, je ne sais pas, c'est particulier à la métropole de Lille, mais ces grandes institutions, ces grandes collectivités, enfin, il faut toujours être dans le gigantisme pour être soi-disant efficace, mais l'éloignement avec les populations, c'est dramatique. C'est dramatique. Il n'y a aucune écoute, aucun échange. C'est inquiétant, je trouve. Dans la structuration des collectivités, de la République, des territoires, voilà, on nous impose des choses sans consulter les gens. C'est pas tenable, quoi. Il y a un problème démocratique profond hein, dans cette institution. Ça interpelle.
Et on va reprendre le mot maintenant connu chez nous de Fabien Desage, on a confisqué la politique en fait. Il faut réinventer la politique.
Ouais, absolument. Il faut que les gens se réapproprient l'action politique au sens large. Quoi. C'est pas sale la politique, c'est la vie des gens, c'est quelle société on veut. Quoi. C'est un projet. Moi je suis convaincu de ça. Alors tout est fait hein, pour... Il y en a qui prêtent le flanc évidemment aux attaques, aux critiques, les corrompus, etc. Oui, mais la politique c'est pas ça. La politique, c'est l'engagement des gens, là où ils sont, sur leur façon, sur leur cadre de vie, sur leurs préoccupations. C'est ça. C'est pas un problème de carrière. Quoi. Voilà.
On va y aller. On va voir qu'il y a des gens au Chili qui s'occupent de la politique. On a remis Kula Payoun pour terminer ce soir.
Anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a luchar.
Bien, bonsoir et bon week-end. Bon week-end à tous et prenez soin de vous et à la prochaine émission, donc le 19 février.